La crise, de nouveau, semble à son apex entre la France et l'Algérie. Les tensions se multiplient. Emmanuel Macron, ce matin même, a pris la décision d'expulser 12 agents consulaires algériens en miroir d'une même mesure de l'Algérie. Et alors qu'hier, l'ambassadeur français à Alger a été rappelé, l'Algérie est accusée d'être responsable d'une nouvelle, je cite, « dégradation brutale ». Alors l'escalade est-elle sans fin? Comment la limiter? Et surtout, comment la comprendre? Pour cela, deux invités ce soir. Adlène Mohamedi, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur et enseignant en géopolitique, spécialiste du monde arabe. Face à vous, Belkhir Belhadad, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes député non inscrit, ancien président du groupe d'amitié France-Algérie. Merci à vous deux d'être présents ce soir dans Questions du soir.
Le présent et l'avenir de ce territoire s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine.
Ce fut probablement le moment le plus applaudi du discours d'Emmanuel Macron.
La réaction d'Alger ne s'est pas fait attendre. Le gouvernement algérien a annoncé le retrait avec effet immédiat de son ambassadeur en France.
Le 16 novembre dernier, alors qu'il venait de fouler le sol d'Alger, l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal a été arrêté et a été emprisonné.
Depuis quelques semaines, vous l'avez indiqué, nous avons vu des propos qui sont des propos de haine absolument intolérables, inadmissibles, d'influenceurs algériens.
C'est l'histoire d'un attentat terroriste qui relance la guerre diplomatique entre la France et l'Algérie. À Mulhouse, samedi vers 15h40, un homme de 37 ans est suspecté d'avoir tué à l'arme blanche un passant d'origine portugaise de 69 ans.
En expulsant 12 agents algériens, en rappelant notre ambassadeur pour consultation, nous démontrons notre capacité à répliquer sans hésiter et avec fermeté.
Comment, Adlène Mohamedi, comment caractériser les relations franco-algériennes aujourd'hui? Est-ce qu'il s'agit d'une situation exceptionnelle, historique, ou est-ce que dans le fond, c'est la continuité de cycles de dégradation et d'amélioration de ces relations, au moins depuis 1962?
Bon, je dirais qu'elles sont, erratique par définition depuis l'indépendance algérienne, depuis 1962. On a des cycles effectivement de tension, puis d'accalmie, mais c'est vrai que ces derniers temps, ça a pris une tournure un peu inédite. Et avec la déclaration d'Emmanuel Macron sur le Sahara occidental, on a effectivement une crise diplomatique qui a les allures d'une crise un peu inédite.
Inédite en quoi? Inédite dans la nature ou même dans la qualité de ces échanges?
Inédite dans la mesure où, côté algérien, on a quand même rappelé l'ambassadeur de façon presque définitive. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de rupture diplomatique, mais l'ambassadeur en question a été nommé ailleurs. Donc c'est quand même un signal fort. Et inédite aussi parce que tout de suite après, là on pouvait imaginer un réchauffement, les relations se sont dégradées dans d'autres secteurs, notamment sur la question des OQTF et des laissez-passer consulaires, et surtout avec la prise en main en fait du dossier franco-algérien par le ministre de l'Intérieur, parce que ça a été effectivement le grand facteur aggravant de cette crise.
Belkhir Belhadad, est-ce que vous êtes d'accord sur le caractère inédit de la situation, de ces relations franco-algériennes?
Oui, je partage. Inédit et grave, c'est la plus grave crise diplomatique que l'on ait pu connaître entre les deux pays. Il y a eu souvent des hauts et des bas. Cette accélération des tensions provient notamment de la décision d'Emmanuel Macron à un moment donné de reconnaître la marocanité du Sahara occidental. Moi, je l'avais évoqué hein, ce sujet avec notamment c'était Stéphane Séjourné à l'époque ministre des Affaires étrangères que si effectivement la France orientait vers une telle décision, c'est l'arme atomique en fait. Hein, et d'ailleurs pour les deux pays, que ce soit pour le Maroc ou l'Algérie. C'est vraiment une ligne plus que rouge, avec des conséquences que l'on subit de part et d'autre, tous les acteurs, hein, économiques, société civile, politiques, voilà. Donc, et exacerbé par notamment un jeu de politique intérieure, aussi bien en Algérie qu'en France, qui arrive à un point de tension qu'on n'a jamais jamais connu dans cette relation.
Justement, en rebond à ce que vous dites et en rebond de ces tensions que vous décrivez, Alain Mohamedi, est-ce qu'il s'agit de deux sociétés désormais qui s'opposent, de deux pays, la France et l'Algérie, ou bien ce sont deux élites qui se font la guerre et qui instrumentalisent cette relation, chacun pour des profits qu'on décortiquera?
Non, je dirais que l'opposition aujourd'hui, c'est plutôt une opposition entre pouvoir en place, hein, entre régimes politiques. Hein, c'est tout à fait d'ailleurs intéressant de rappeler que les deux régimes sont nés finalement d'un même événement, c'est-à-dire de la guerre d'Algérie, hein, la Ve République comme le pouvoir en Algérie. Et aujourd'hui, ces deux pouvoirs en place, toutes proportions gardées, sont confrontés finalement à des crises. Hein, différentes, certes, mais il y a des crises. On a une crise quand même politique aussi en France. Et depuis les législatives, depuis finalement cette reconfiguration politique où la droite et l'extrême droite semblent jouer un rôle particulièrement important, effectivement, le dossier algérien devient un objet de politique intérieure.
Il n'y a pas, comme on le lit, comme on l'entend parfois, de défiance à l'égard de la France, à l'égard des Français, au sein même de la société algérienne. Et cette défiance-là n'est pas instrumentalisée aujourd'hui ?
Alors, la ritournelle anti-française a toujours existé et peut être utilisée, bien sûr, par moment. C'est un élément presque structurant, utilisé de façon, on va dire, épisodique, mais jusqu'ici, à distance des relations matérielles entre les deux pays. C'est-à-dire que c'est utilisé comme ça dans la communication politique, mais en général, on préserve quand même la relation concrètement. Pour ce qui est de la société algérienne, si la question est est-ce qu'il y a une haine anti-française en Algérie, la réponse est non. C'est-à-dire que si demain vous vous baladez à Alger, on vous traitera tout à fait correctement. Il n'y a pas de détestation anti-française en Algérie. Il y a pas de... Les Algériens ne sont pas francophobes. Hein. Les Algériens ont des relations ambiguës avec la France, bien sûr, mais c'est valable aussi d'ailleurs pour les franco-algériens ici, mais il n'y a pas de détestation à l'égard de la France. Il y a juste une certaine ambiguïté et parfois la tension sous-jacente est largement instrumentalisée par des discours de politique côté français et aujourd'hui plus que jamais.
Un événement, Belkir Belhadad, par exemple, comme vous le mentionniez, comme la reconnaissance par l'État français de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, quel impact ça a sur la société algérienne, sur l'opinion algérienne, par exemple?
Je pense que l'opinion algérienne sur cet élément-là est assez important, je pense, parce que il est un des fils rouges dans la relation que l'Algérie peut entretenir, notamment avec le Maroc, avec des hauts débats, mais surtout des débats de nombre, notamment depuis la guerre civile en Algérie, début des années 90, où les frontières sont fermées, plus de visas possibles par voie terrestre en 1994. Et effectivement, c'est aussi pour les Algériens un point d'achoppement important. Quand je disais d'armes atomiques, c'est véritablement une ligne rouge également pour les Algériens. Et ça, oui, un impact important, malgré les efforts qui ont été faits par Emmanuel Macron lors de sa visite en 2022, je l'ai accompagné en août 2022, et vraiment nous avons eu un accueil extrêmement chaleureux pendant trois jours, avec une signature d'une dizaine de collaboration, d'intention en matière énergétique, en matière culturelle, en matière sportive, parce qu'on accueillait les Jeux Olympiques en 2024. Donc on formait un espoir, et également du côté algérien dans cette relation. Le souci, c'est qu'il n'a pas eu grand chose. En fait, entre 2022, il s'est pas passé grand-chose entre 2022 et 2024. Et je pense que le président de la République en a fait l'amer constat que la relation franco-algérienne n'avançait pas. En tout cas, du côté algérien, il n'y avait pas une volonté de faire de la France un choix stratégique en termes de partenariat.
Est-ce qu'on peut estimer, Alain Mohamedi, que la France joue une forme de concurrence entre ses anciennes colonies, entre le Maroc et l'Algérie? Notamment la Tunisie, sans doute un peu moins, mais notamment entre l'Algérie et le Maroc aujourd'hui, notamment dans cette reconnaissance de la souveraineté marocaine au Sahara occidental.
Alors, je ne dirais pas concurrence, mais ce qui est certain, c'est que la décision de la diplomatie française à ce moment précis a été motivée par un constat qui me semble assez d'ailleurs fallacieux et problématique, c'est le constat selon lequel l'Algérie serait affaiblie à l'échelle régionale et que c'était le moment finalement idéal de miser pleinement sur le Maroc. C'était un, en gros, c'était un peu ça. C'était l'idée, bon, pour l'Algérie aujourd'hui a quelques problèmes, a des problèmes avec le Sahel, a des problèmes avec l'influence et le jeu ambigu joué par la Russie dans la région. Donc, forcément, on va miser pleinement sur le Maroc.
Et y a, on ajoutait à l'époque qu'il y avait par ailleurs une instabilité dans la région, en Libye, au Sahel, et que voilà. L'Algérie, prise dans cet étau,
exactement,
s'en trouvait affaiblie.
Donc on s'est dit, bon, c'est le moment de faire avaler cela aux Algériens. Je pense que c'était un calcul qui n'était pas bon du tout, d'autant que la France aurait pu jouer finalement au contraire un rôle de puissance médiatrice entre les deux pays, puisqu'il y avait finalement un conflit entre l'Algérie et le Maroc, et la France a fait exactement le contraire. Et en plus, il y avait cette idée assez bizarre dans la diplomatie française, l'idée selon laquelle le Maroc, c'était vraiment la start-up nation bis avec qui tout va bien. Avec qui la relation est forcément fluide, alors qu'avec l'Algérie, tout est compliqué. Or, je pense que...
C'était faux, par ailleurs. Il y a eu des grands différends récents entre la France et le Maroc, notamment sur les questions d'espionnage.
Exactement. En fait, on oublie à quel point ces deux pays peuvent se ressembler, que les problèmes peuvent être les mêmes, y compris d'ailleurs sur les questions d'immigration, etc., et d'OQTF et compagnie. Et en plus, je pense qu'on a fini par se rendre compte que la relation avec l'Algérie n'était pas sacrifiable. Parce qu'il y avait aussi ce risque. On va sacrifier une relation au profit d'une autre. Et je pense que les dernières démarches, et notamment le communiqué présidentiel, puis la visite de M. Barrot, tendaient à indiquer qu'on avait compris quand même que la relation franco-algérienne n'avait pas vocation à être sacrifiée.
Belkir Belhadad, l'Algérie a, j'allais dire, pâti de l'aura qu'elle perdait en matière diplomatique ces récentes années. C'est pour cela que la France a fait le choix du Maroc entre ces deux anciennes colonies ?
Non, je crois pas. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je crois que l'Algérie n'a pas fait le choix stratégique de travailler avec la France pour un certain nombre de raisons qui lui incombent. Elle a fait le choix effectivement de plus travailler avec les États-Unis, la Russie, et que effectivement c'est pas l'Algérie qu'on a pu connaître dans les années 70 ou dans les années 80 qui pouvait intervenir dans la géopolitique du Moyen-Orient, par exemple, pour le rôle que joue d'ailleurs, par exemple, le Qatar sur le plan diplomatique. Malheureusement, l'Algérie, sur la scène internationale, ne joue plus son rôle. Malgré tout, elle reste un partenaire incontournable, important en Afrique de par les potentialités à la fois de ressources économiques et de coopération en matière culturelle, en matière universitaire. On a de très nombreux compatriotes ici franco-algériens mais également de Français qui sont attachés à ce pays et qui souhaiteraient travailler avec lui. Donc on a des potentialités qui ne sont pas exploitées et moi je le regrette profondément. Voilà.
On va trouver justement le moyen, peut-être grâce à vous deux, d'exploiter un peu mieux, un peu plus ces potentialités. Je voudrais vous faire entendre une archive. Elle date de 1975. On se trouve alors sur Antenne 2. On est le 19 novembre.
Tout devait aller mieux et surtout plus vite. Mais aujourd'hui, 7 mois après, une nouvelle fois, les rapports se dégradent. La compagnie pétrolière française ERAP rompt ses négociations. Elle trouve le pétrole algérien trop cher. Annulation d'un autre contrat pour l'installation d'une usine de matériel téléphonique. La liste est longue. Et les négociations pétrolières pèsent très lourd. L'Algérie accuse même certaines compagnies françaises d'être un outil politique au service d'idées rétrogrades. L'attaque est claire. Côté algérien, on affirme qu'il y a de la mauvaise volonté chez les Français.
Moi, je constate les questions économiques et les questions industrielles. Je constate que les négociations continuent.
Alors, à votre avis, il n'y a rien à faire pour améliorer les rapports franco-algériens ?
Je vous répète de nouveau que nous poursuivons nos négociations dans bien des secteurs. Le gouvernement français, pour sa part, fait ce qu'il peut pour développer ses relations.
En tout cas, les rapports franco-algériens sont encore chargés d'une très grande agressivité, le poids du passé sans aucun doute, et le voyage présidentiel n'a pas réussi à tout clarifier.
Aden Mohamedi, les sujets sont différents, ils sont plutôt d'ordre économique, industriel, dans l'extrait que l'on vient d'entendre, et pourtant l'intensité semble à peu près similaire. Pourquoi, du moins au sein de la société française, dans le cadre politique français, l'Algérie est-elle devenue un objet politique à part entière ?
Bon, bien sûr, parce qu'il y a cette question coloniale qui n'a pas été tout à fait digérée. Ça, c'est, je pense que c'est incontestable. Et il y a, bien sûr, comme je le disais, en fait, les relations franco-algériennes sont ambiguës. C'est-à-dire que là, on est en 75, hein, dans l'extrait qu'on vient d'entendre. Quelques années auparavant, il y a eu un rapprochement franco-algérien, notamment sur le plan militaire, parce que la France était perçue, d'ailleurs, comme presque, pour certains, comme une alternative à l'Union soviétique. Hein. On voulait limiter la dépendance à l'égard de l'Union soviétique. Donc, la relation, c'est une relation aux dents de scie. Parfois, il y a des moments de crispation. Et disons que le contexte de l'époque était un contexte de guerre froide, un contexte de front du refus mené par l'Algérie à l'époque à l'échelle de la Ligue arabe. C'était un contexte, effectivement, qui permettait ce rapport de force ou qui encourageait ce rapport de force. Mais chacun savait que bon, qu'il y avait des lignes rouges à ne pas franchir et que la relation quand même devait in fine être préservée. Je rappelle qu'à l'époque,
avec beaucoup de sujets aussi mis sous le tapis, de thématiques non évoquées et de conflits jamais abordés.
Il y avait un certain nombre de tabous. C'était une époque où la circulation était beaucoup plus fluide, hein. Il n'y avait pas de régime de visa. Le régime de visa n'est instauré qu'en 1986. On est quelques années après les fameux accords de 68, hein, qui régulaient justement la circulation d'Algériens en France. Donc c'était un contexte assez particulier. Mais en tout cas, cette tension-là rappelle que, qu'on en a vu d'autres. C'est-à-dire que parfois, à cause justement de nos obsessions communicationnelles, on a parfois tendance à penser que tout ce qui arrive est inédit, mais en réalité, on a eu d'autres crises, effectivement.
Je reviens, Belkir Balhadat, sur l'Algérie comme objet politique au sein de la société française. Comment est-ce que vous analysez vous-même la façon dont le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, se saisit de ce dossier et mène sa barque sur ce sujet?
Je pense qu'il le fait pour des raisons de politique intérieure. Il y a des élections chez les LR, voilà. Donc je pense que c'est très clair, il ne faut pas être dupe de cela. C'est vrai que on a beaucoup de non-dits dans cette relation franco-algérienne et depuis très longtemps.
Mais pardonnez-moi, quel gain concret il peut obtenir justement avec un dossier comme celui de la relation entre la France et l'Algérie?
Ah bah écoutez, il n'est pas sûr forcément d'être là dans quelques mois, donc pour lui, c'est effectivement faire un maximum de tapage sur cette relation franco-algérienne qui n'est pour moi pas à la hauteur des enjeux. Je pense que la relation franco-algérienne mérite bien plus que ces tapages internes pour une présidence chez les LR. Ça c'est le premier point. Et ce qui est sous-jacent pour moi, c'est aussi dans cette relation beaucoup de non-dits sur cette période coloniale. L'ensemble des protagonistes ou leurs descendants, deuxième génération, troisième génération, sont toujours présents. Et on le voit à l'Assemblée nationale, où le doyen d'âge de l'Assemblée n'hésite pas, devant toute l'Assemblée, d'évoquer l'OAS tranquillement, comme si de rien n'était, etc. Enfin, voilà, on est dans ça aujourd'hui. J'ai composé avec cela lorsque j'étais président du groupe d'amitié France-Algérie. C'est tout ce qui fait cette difficulté et cette complexité dans cette relation franco-algérienne et pour laquelle on a du mal à avancer. Et pendant très longtemps, on n'a pas parlé de la guerre d'Algérie. Et à la demande de Tebboune, du président Tebboune, Emmanuel Macron a donné son accord pour qu'on évoque dans la restitution des archives nationales la période coloniale depuis 1830. Cette histoire...
Depuis la colonisation, en somme.
Depuis la colonisation, depuis le début, depuis 1830. Et donc, cette histoire est méconnu. Le premier film à avoir traité de la bataille d'Alger, et c'est tout récent, c'est au début des années 2000. Enfin voilà, donc on a un vrai problème pour aborder cette question difficile, complexe.
Vous estimez, vous aussi, Alain Mohamedi, qu'il y a un problème de connaissance dans le fond de cette relation franco-algérienne, de ce qui s'est passé effectivement en Algérie? C'est vrai qu'on connaît bien mieux, grâce au programme scolaire, la période dite de décolonisation, en tout cas la prise d'indépendance de l'Algérie. On connaît bien moins, en revanche, la période de colonisation, tout ce qui s'est passé entre 1830 et 1962.
Oui, j'ai l'impression qu'on a un peu tourné le dos à cette histoire. Moi, je me méfie beaucoup quand même de la notion de mémoire et des débats mémoriels, parce que bon, les questions mémorielles sont quand même des questions souvent subjectives. Je veux dire, la mémoire de ma famille est difficilement réconciliable avec la mémoire d'un ancien de l'OAS. Par contre, l'histoire...
Et objectivement, dans la société française, il y a beaucoup de mémoires qui se cristallisent différemment autour de l'Algérie.
Oui. Exactement. Donc, la solution la plus simple et la plus rationnelle, c'est de miser plutôt sur l'histoire. Donc, d'aider les historiens à travailler correctement. Les historiens n'ont pas besoin d'ailleurs de débats, de communication. Les historiens ont besoin de moyens. Ils ont besoin d'ailleurs de travailler souvent à distance des États. Et je pense que ça serait beaucoup plus sain. Mais vous avez raison, il y a une intimité franco-algérienne qui n'a pas aider en réalité à une meilleure connaissance de cet objet, mais plutôt effectivement qui a déformé la connaissance de ce sujet. On l'a vu même au moment du soulèvement populaire du Hirak en 2019, où on voyait bien que les analyses en France n'étaient pas à la hauteur, parce que justement on connaît mal l'Algérie, on n'a pas assez travaillé en France sur l'Algérie. Et voilà, je pense qu'il faut effectivement miser plutôt sur du rationnel, sur du scientifique, plutôt que sur ces affects-là autour de la question mémorielle.
Et on en est vraiment...
Belkir Belhadad.
Oui, et puis on en est, je trouve, vraiment qu'au tout début, en fait, de ce travail, en fait, qui est réalisé par le comité d'historiens.
Vous l'avez dit, on ouvre seulement les archives.
Comment ?
Vous l'avez dit, on ouvre seulement les archives.
On ouvre seulement les archives, en fait. Et il fallait déjà avoir un accord des deux présidents. Ce qui a été fait, y compris sur la période de 1830 à 1954. Et c'est très, très important. Et d'ailleurs, avant ces soubresauts très, très récents, la partie algérienne d'historiens devait se déplacer, notamment pour consulter certaines de ces archives, là, cette semaine ou la semaine prochaine.
Il est une autre ambiguïté que je voudrais peut-être tenter de clarifier avec vous deux. On parle beaucoup, c'est normal, du ministre de l'Intérieur, de Bruno Retailleau, mais comment qualifier la ligne du président de la République, Emmanuel Macron, depuis 2017? On s'en souvient, hein, pendant la campagne présidentielle, la première, celle de 2017. Il avait parlé de la colonisation comme crime contre l'humanité, alors que quelques années plus tard, en privé, il a parlé de rente mémorielle de la colonisation pour et par le pouvoir algérien. Comment est-ce que vous-même, Adeline Mohammedi, vous qualifiez la position générale d'Emmanuel Macron durant ces deux mandats?
Je pense qu'elle est très 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 difficile à analyser, parce que le président Macron en réalité réagit au moment, réagit aux affects du moment, c'est-à-dire qu'il aura tout dit et son contraire sur cette question-là. Il a parlé quand même de crimes contre l'humanité, et puis il a parlé de rente mémorielle, ce qui a quand même beaucoup choqué. Et puis quelques mois après cette phrase sur la rente mémorielle, on lui déroule le tapis rouge à Alger, puis il revient. En fait, et sur le Maroc c'est pareil, c'est-à-dire qu'il y a un moment de tension, puis on voit qu'il cède finalement à un lobby marocain sur cette question du Sahara occidental. Je pense qu'il y a effectivement parfois un manque de cohérence. C'est pas la politique la plus conséquente qu'on ait eue quand même. Ça, il faut l'admettre. Mais à sa décharge, je dirais qu'il est aussi l'otage d'équilibre politique. Et là, effectivement, cet équilibre politique fait que...
De politique interne, bien sûr.
Et là, effectivement, le fait de propulser un homme comme Monsieur Retailleau, je rappelle, à toutes fins utiles, que Monsieur Retailleau n'est ministre que parce qu'un autre parti que le sien a fait un très bon score législatif. C'est qu'il n'est pas là parce que LR est un grand parti français.
Vous parlez du Rassemblement National.
Voilà, je parle du Rassemblement National. Donc il est quand même l'otage de ces équilibres-là fragiles, politiques, et donc à un moment donné, maintenant il semble un peu plus ou moins débranché sur la question franco-algérienne, mais à un moment donné, effectivement, on l'a laissé un peu trop faire sur ce dossier.
Je vous retire, Belkir Belhadad, vers le sujet présidentiel. Comment vous-même caractérisez cette relation depuis 2017? Elle est trop volatile, cette ligne, pour même être tracée, pour être comprise?
Emmanuel Macron a souhaité l'attaquer sous l'angle mémoriel. Bon, on peut critiquer ou pas cet aspect-là. Avec le recul, c'est vrai qu'on peut se dire que c'était pas forcément le bon choix à faire, parce que c'est un choix extrêmement difficile, piégeux pour tout le monde. Et on se rend compte, en fait, hein, les instrumentalisations, les termes qui sont utilisés ne sont pas forcément adaptés aux circonstances. Et puis la situation politique interne, et notamment depuis la dissolution, n'a pas du tout aidé à la situation. Moi, je crois dans ce type de relation, que les coopérations, notamment industrielles, et on en a des sujets, notamment dans le domaine de l'énergie, sur les questions des terres rares. Aujourd'hui, on en parle énormément, mais l'Algérie possède un certain nombre de terres rares en matière d'hydrocarbures, d'énergie. Enfin voilà, on a énormément de sujets qui n'ont pas été suffisamment, pour moi, traités, développés. Je pense qu'il aurait fallu, mais c'est toujours plus facile de le dire après. Je l'ai accompagné lors de ce voyage et j'ai trouvé les relations entre les deux présidents très sincères. Il y a une vraie amitié, enfin je sais pas si on peut appeler d'amitié, mais en tout cas une vraie complicité, je dirais, une vraie complicité entre ces deux hommes, une certaine forme de respect entre les deux, et qui pour moi peut être une des clés aujourd'hui pour sortir de cette grave crise. Je l'ai trouvé, j'ai pas étudié du tout d'accord avec lui sur la décision qui a été prise sur le Sahara occidental, autant je l'ai trouvé très courageux d'aller au front, mais on le connaît sur ces sujets-là, d'aller au front sur la question mémorielle, d'ouvrir les archives nationales, d'avoir eu l'accord du président Tebboune sur ce sujet, c'est pas rien, d'avoir mis en place un comité enfin c'est quand même des choses qui sont pas négligeables et qui pour l'avenir seront vraiment des outils extrêmement intéressants.
Je voudrais que l'on continue avec vous de faire le tour de ce cercle politique français, de comprendre comment cette question algérienne et franco-algérienne est instrumentalisée. Parlez-nous, Adeline Mohamedi, de Xavier Driancourt. Comment l'extrême droite, à travers cette figure, tente elle aussi de se saisir de ce sujet?
Xavier Driancourt,
qu'il aide un mot.
Xavier Driancourt est un diplomate français, un énarque, qui a été ambassadeur en Algérie deux fois, ce qui est plutôt rare d'ailleurs, assez rare pour être signalé, et qui a un petit peu mis de côté sa casquette de diplomate pour devenir une sorte de conseiller de l'extrême droite française sur la question algérienne. Tout simplement. C'est-à-dire qu'il
est venu... Avec un sujet de bataille, les accords de 1968.
Avec, bien sûr, les accords de... Voilà, avec, bien sûr, les accords de 1968 qui sont devenus un peu le totem de la droite et de l'extrême droite. Quand je dis, en fait, la droite et l'extrême droite sont sur la même longueur d'onde sur ces questions-là. Et effectivement, le drame avec Xavier Driancourt, c'est qu'il utilise un petit peu cette expertise, cette aura de diplomate, en réalité, à des fins purement politiciennes. Donc... on l'a vu clairement dans le cadre notamment de la campagne du RN aux législatives.
Je suis allé sur le site du ministère de l'Intérieur pour comprendre en substance ce que permettaient ces accords de 1968, car on entend beaucoup de choses et son contraire. Je cite trois points. L'entrée des Algériens en France est facilitée. Les Algériens bénéficient de la liberté d'établissement pour exercer une activité de commerçant ou une profession indépendante. Les ressortissants algériens, enfin, peuvent accéder plus rapidement que les ressortissants d'autres États à la délivrance d'un titre de séjour valable 10 ans. Est-ce que vous estimez, Belkir Belhadad, que ces accords de 1968 sortent les Algériens du statut de droit commun, ou est-ce qu'au fond, ils servent encore les relations franco-algériennes?
Je pense que ces accords-là ont été vidés d'une grande partie de leur substance.
Mais il en reste encore un peu quand on lit ce qui est permis.
Il en reste encore, mais en faire l'alpha et l'oméga de la relation algérienne, c'est franchement... c'est ce que tente de faire justement l'extrême droite pour instrumentaliser le sujet. Parce que ce fameux Driancourt, ex-ambassadeur d'Algérie, nous fait croire qu'il y a aujourd'hui environ 4 à 6 millions d'immigrés algériens.
C'est loin d'être vrai.
C'est aujourd'hui 840 000 ou 850 000 chiffres de l'INED, donc que vous pouvez vérifier. Et si on compte les descendants, on est à plus 1,2 million. On est à 2 millions à peu près d'immigrés algériens. Donc on est très loin des 4 à 6 millions. Voilà. Donc il y a une vraie instrumentalisation par la preuve. Là, je viens de vous le démontrer par l'extrême droite de ce sujet contre lequel je me bats. En commission des affaires étrangères la semaine passée, je me suis frontalement opposé à une proposition de résolution européenne de la part du Rassemblement national qui attaquait la relation franco-algérienne, mais sans même parler à un moment donné d'amitié ou d'une quelque forme de d'espoir dans cette relation. Rien de tout cela. C'est une attaque en règle, comme s'il souhaitait prendre un peu une revanche sur l'histoire. De quelle revanche? Je trouve vraiment cette instrumentalisation de cette affaire pas à la hauteur des enjeux et complètement déplorable.
Adeline Mohamedi, une réaction?
Oui, alors je suis tout à fait d'accord sur les accords de 68. Je pense qu'en dépit de ce qui a été dit sur le site, je rappelle que si c'était le cas, en fait, si les accords de 68 étaient finalement le vecteur d'une installation plus simple des Algériens, vous auriez des titres de séjour délivrés aux Algériens beaucoup plus nombreux que pour les autres.
C'est pas démontré dans les faits, vous voulez
dire ? Pas du tout. C'est-à-dire que si vous comparez, par exemple, avec les ressortissants marocains, on voit bien que ces dernières années, à plusieurs reprises, on a délivré plus de titres de séjour pour les Marocains qui n'ont pas ce genre d'accord. Par ailleurs, aucun Algérien sur le sol algérien ne va invoquer les accords de 68 pour obtenir un visa. Aujourd'hui, il est presque impossible d'avoir un visa. Donc déjà, c'est quand même un obstacle assez important, parce qu'entre 68 et aujourd'hui, il y a eu 86, c'est-à-dire les visas. Par ailleurs, je vais quand même citer les étudiants, parce que les étudiants sont quand même un groupe assez important. Les étudiants algériens sont même plutôt lésés par les accords de 68. Parce que le droit commun, justement, des étrangers, notamment depuis les années Macron, a évolué plus favorablement que les accords de 68. Le passeport talent, bien sûr, que vous avez cité, la carte pluriannuelle, l'abolition de l'autorisation de travail pendant les études, tout cela, les étudiants algériens n'y ont pas droit. Donc, quand on présente les accords de 68 comme une espèce de privilège algérien, je pense qu'on ment à l'opinion publique française. Et on veut lui servir quand même les Algériens comme une espèce de groupe privilégié à attaquer.
La voix du ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, ministre français des Affaires étrangères.
Là où nous sommes, et c'est très regrettable, c'est une situation où effectivement le dialogue se dégrade brutalement du fait d'une décision injustifiable. Je crois que en répliquant à la décision des autorités algériennes en expulsant 12 agents algériens en poste
en France, au maximum.
En rappelant notre ambassadeur pour consultation, nous démontrons sans aucune forme d'ambiguïté notre capacité à répliquer sans hésiter et avec fermeté. Je dis simplement que si nous voulons des résultats pour les Françaises et les Français, il nous faudra un jour ou l'autre revenir à un dialogue franc, lucide et exigeant.
Belkir Belhadad, ces propos du ministre des Affaires étrangères tenus sur l'antenne de France Inter disent le vrai selon vous? Il faudra de toute façon revenir au dialogue et à la diplomatie?
C'est toujours ce que j'ai cru depuis le début de cette affaire et on me riait au nez quand j'évoquais en fait cette question diplomatique et ça ne peut se régler que par là. On voit bien que
pourquoi vous riez au nez?
Parce que ce qui a été évoqué comme proposition très ferme sur les visas, sur tout ça, ça n'a pas marché. L'aide au développement, c'est 136 millions d'euros. C'est peanuts dans nos relations entre l'Algérie. Et vous allez plus pénaliser des étudiants boursiers algériens qui sont amoureux de la langue française plutôt qu'autre chose. Donc c'est totalement contre-productif. Et la seule solution, c'est celle de la diplomatie. La difficulté, c'est que la difficulté, c'est que la diplomatie, elle se joue sur le temps long. On le voit bien avec le Maroc. Il y a eu quand même des tensions pendant une dizaine d'années avant que la France retrouve une relation plus que normale avec le Maroc.
Alain Mohamedi, c'est une question vaste que je vais vous poser, mais je vous la pose quand même. Comment apaiser concrètement ces relations?
Je pense qu'il faut effectivement retirer peut-être définitivement en tout cas ce dossier au ministre de l'Intérieur déjà, parce que je pense que c'est vraiment le pire canal dans cette relation, d'autant qu'on a affaire quand même à un ministre de l'Intérieur qui a quand même fait l'apologie de la colonisation, ce qui est quand même déjà assez problématique quand on veut dialoguer avec l'Algérie. Donc bien sûr revenir à la langue
diplomatique.
Pourtant
c'est un canal qui est souvent utilisé en France, on se souvient
en
2005 à Michel Olemari, elle était ministre de la Défense, mais tout de même, ce n'est pas le canal habituel. Oui. Elle s'était servie du dossier franco-algérien pour reconnaître les bons côtés de la colonisation. Quelques années plus tard, Nicolas Sarkozy, lui aussi, s'était saisi de ce dossier, alors ministre de l'Intérieur. C'est un canal traditionnel en France.
C'est un canal traditionnel. Alors, c'est un canal, on peut même remonter aux années Pasqua, pendant la cohabitation de 93-95. À l'époque, Pasqua était ministre de l'Intérieur, et à l'époque, la DST avait des liens avec les services algériens. C'est un canal, effectivement, habituel, et même sous Darmanin, plus récemment.
De sécurité.
Voilà, sur les enjeux de sécurité. La différence cette fois, c'est que M. Retailleau, en fait, ne semble pas l'utiliser à des fins purement opérationnelles, parce qu'à la limite, ça serait normal, coopération entre services de sécurité, par exemple, dans la lutte antiterroriste ou autre. Là, il le fait à des fins politiciennes. Et ça, effectivement, c'est nouveau. Et j'insiste sur ce point, parce que, effectivement, la question diplomatique, revenir à un langage diplomatique, a aussi une utilité politique, y compris en Algérie et pour les Algériens. Pourquoi? Parce que en Algérie, on a quand même aussi une soif de démocratie. Et j'ai tendance à penser que quand la relation entre la France et l'Algérie est dégradée dans ces proportions-là, les premières victimes sont finalement les défenseurs de la démocratie en Algérie. On se retrouve aujourd'hui malheureusement avec des influenceurs comme, on va dire, presque opposants érigés par les médias de droite et d'extrême droite en France, alors que on devrait plutôt laisser de la place à d'authentiques démocrates, d'authentiques opposants, qui ont de vraies choses à dire.
La voix d'un écrivain franco-algérien, Boualem Sansal, retenu aujourd'hui en Algérie. Il s'exprimait alors le 14 mai 2016 sur l'antenne de France Culture, sur À Voix Nue, plus précisément.
À 17-18 ans, on veut savoir ce qui se passe et pourquoi et comment, etc. Et là, et donc, on découvre la politique. Et alors, on cherche des livres. On devient très friand de ce genre de livres écrits par des dissidents de l'Union soviétique, la Tchécoslovaquie, enfin bref. Et parmi ces livres-là, il y en a un qui a particulièrement compté, c'était 1984. J'ai très vite compris que ce livre expliquait notre situation. Des gens ont pris le pouvoir et ils étaient en train d'installer une sorte de système totalitaire et ils se sont inventés un récit, ils ont réécrit l'histoire de la Révolution. Ils pensaient que c'était une révolution faite par le peuple. Ben, pas du tout. Elle est faite par les libérateurs. C'est leur histoire à eux. L'histoire du peuple devient l'histoire de M. Bembella, de M. Boumédien, et le peuple, qui, pour nous, c'est des individus, devient une entité abstraite. C'est le peuple.
Monsieur le Président de la République, n'oubliez pas notre père. Les deux filles de Boualem Sansal, Nawal et Sabéa Sansal, font paraître dans le Figaro aujourd'hui une tribune avec ses premiers mots. Alors comment, Belkir Béhadad, ne pas oublier Boualem Sansal?
Continuer la mobilisation. Continuer la mobilisation, faire confiance à la diplomatie. C'est vrai que les derniers soubresauts là de ce week-end, de début de cette semaine, ne vont pas aider et que la demande de grâce présidentielle s'éloigne un petit peu. Donc il faut espérer effectivement qu'on y revienne grâce notamment à la diplomatie et continuer la mobilisation. Ouais, je crois que c'est ça la réponse à avoir aujourd'hui.
Alain Mohamedi, comment est-ce que vous-même vous analysez? Comprenez cette arrestation, comment vous la remettez dans un environnement diplomatique et de lien entre la France et l'Algérie plus large?
Alors bien sûr qu'il y a un lien avec les tensions franco-algériennes, mais j'ai envie quand même de rappeler que l'affaire Boualem Sansal, c'est avant tout une affaire algéro-algérienne. Ça reste un écrivain algérien sur le sol algérien. Il se trouve qu'en Algérie, vous avez beaucoup de prisonniers d'opinion. Et alors bien sûr, les autres n'ont pas finalement suscité le même engouement en France, malheureusement. Mais je pense que...
Vous voulez dire qu'objectivement, c'est un cas parmi d'autres?
Bien sûr, c'est un cas parmi d'autres. Je ne vois pas pourquoi il faudrait, considérer que tous les autres qui croupissent en prison depuis des années sont beaucoup moins importants que lui. En Algérie, il est algérien et d'autres Algériens sont aujourd'hui en prison. Donc, et ces gens-là n'ont jamais été défendus. D'ailleurs, ils n'étaient même pas défendus au moment où M. Macron était à Alger en août 2022. C'est-à-dire qu'on découvre aujourd'hui cette problématique parce que c'est M. Sansal, parce qu'il a des soutiens avec une certaine frange du paysage politique français, mais il y en a d'autres. Alors bien sûr, on aimerait tous qu'il soit libéré, mais on aimerait...
Parce que c'est un écrivain aussi.
Non, il n'est pas en prison parce qu'il était...
Non, pas parce qu'il est écrivain, mais nous sommes touchés par cela parce qu'il est écrivain aussi.
Bien sûr, mais il y a des poètes aussi qui sont en prison. Mais ce que je veux dire, c'est que bien sûr qu'il faudrait qu'il soit libéré, mais il faudrait qu'il soit libéré avec les autres. Et je pense que le pouvoir algérien aurait évidemment intérêt à le libérer, mais à le libérer avec les autres, justement, avec les autres prisonniers d'opinion, justement pour éviter de se faire mal voir à la fois finalement de ses interlocuteurs français et de l'opinion publique algérienne.
Merci beaucoup à tous. Merci les deux de ces éclairages précieux. Adeline Mohamedi, vous êtes chercheur et enseignant en géopolitique, spécialiste du monde arabe, et Belkir Béhadad, vous êtes député non inscrit, on le rappelle, ancien président du groupe d'amitié France-Algérie. Merci à tous les deux.
Merci. Merci.